Vous êtes bien dans le podcast de la direction des politiques sociales du groupe Caisse des dépôts pour le dossier concernant la protection sociale écologique. Nous sommes avec Mathilde Viennot. Mathilde Viennot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chef de projet à France Stratégie, également la cofondatrice avec Clara Léonard de l'Institut Avant-Garde, un think tank non partisan qui a pour but de développer des analyses et propositions concrètes pour les décideurs, universitaires et générations de penseurs et de citoyens. Vous avez également écrit « La protection sociale a-t-elle besoin de la croissance ?» livre où vous vous questionnez si le modèle de la protection sociale peut survivre à la transition écologique et où vous proposez d'inscrire une sixième branche à la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, quand on parle de transition écologique et de protection sociale en France, on en est où exactement?
Alors, en fait, il y a assez peu de recherches sur le sujet encore, parce que c'est un sujet plutôt nouveau. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est finalement très large, puisque la protection sociale coûte déjà beaucoup de nos jours. On voit bien que la transition écologique va aussi coûter très cher. Et donc, on a en fait du mal à combiner les deux, ou en tout cas voir comment est-ce que les deux ne vont pas être en concurrence dans les années qui viennent. Et donc, en fait, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est très, très intéressant et très important de travailler sur les deux sujets conjoints, c'est pour que les deux ne soient pas en concurrence dans les années qui viennent.
Alors, si on change rien, ça veut dire quoi? Plus de pollution égale plus de maladies qui égale moins de protection sociale. En d'autres termes, est-ce que le système de la protection sociale que l'on connaît actuellement peut survivre à cette transition?
Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà quel est l'impact de l'environnement sur les branches actuelles et puis sur notre système de protection sociale. Et puis donc ça, c'est de savoir est-ce qu'il y a de nouveaux risques qui viennent et que la protection sociale peut ou doit prendre en charge. Donc dedans, vous l'avez dit, il y a quel est l'impact des pollutions sur la santé des gens. Donc ça, on a fait une étude ici qui montre que en fait, les inégalités environnementales ont un gradient social plutôt fort. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est déjà les gens plutôt modestes qui vont être plus touchés par ces pollutions-là. Donc la question, c'est quel va être le coût pour la branche santé de prendre en compte ces nouveaux cancers. Donc ça, on ne sait pas le chiffrer, mais en fait, on sent bien quand même que les branches actuelles vont devoir prendre en charge plus de choses. Mais ensuite, il y a quel va être l'impact de la transition sur un peu le côté financement plutôt de la protection sociale. Et donc, est-ce que la protection sociale demain aura moins de moyens pour plus de besoins? Et donc ça, c'est en fait les questions qui sont liées à la croissance, mais aussi au type de financement qu'on souhaite pour la protection sociale.
Alors, on va revenir sur les risques liés au réchauffement climatique. Quels sont ces nouveaux risques concernant la santé?
Alors, donc, sur la santé, il y en a surtout deux. La hausse des températures qui, en fait, va faire que plusieurs types de personnes, notamment plus âgées, plus modestes, vont être plus touchées par les canicules. Donc ça, il y a des études en cours, notamment à l'INSEE, pour voir qui, en fait, va être le plus sensible au pic de chaleur. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir plus de gens dans les hôpitaux notamment pour en fait faire face à ces épisodes de canicule. L'autre, j'en ai parlé un peu, c'est en fait la hausse des pollutions, donc notamment pollution des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air, et en fait qui certaines études le montrent, ont des liens avec la survenance de cancers.
Une étude de France Stratégie publiée le 22 mai évoque qu'il faudra investir 462 milliards pour décarboner la France, soit 66 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an d'ici 2030. Comment on peut faire, Mathilde, pour financer une sixième branche de la sécurité sociale quand l'État investit 66 milliards chaque année pour décarboner ?
Eh bien, c'est justement la grande, grande question. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se basait sur la croissance, donc en fait sur les fruits de notre production, pour payer chaque année la protection sociale. Si on a moins de croissance, parce que c'est aussi ce que montre ce rapport, c'est qu'en fait la transition va être un choc négatif, au moins à court terme. Donc si on a un gâteau qui en fait ne grossit plus chaque année, mais en plus qu'au sein de ce gâteau, il y a plus de choses qu'on doit financer, eh bien en fait, il faut qu'on se pose la question du partage de ce gâteau. Et donc la question de la dette, la question de l'impôt, donc c'est d'ailleurs ce que Pisani Ferry prône, et la question du partage de la valeur.
Donc, la sécurité sociale, c'est 33,3% du PIB français. Pour vous, est-ce que cela doit changer ? Quelle doit être la part du PIB dans la transition écologique et dans la protection sociale ?
Alors, en fait, pour moi, cette mesure en part du PIB n'est pas la bonne. Parce qu'en fait, pour moi, il faut d'abord qu'on se questionne quels sont nos besoins, donc que ce soit en termes de protection sociale ou en termes de transition verte. Et puis donc ensuite, quand on a fait la liste de ses besoins, qu'on les a chiffrés, et ben c'est en fait seulement là qu'on se pose la question du coup comment on le finance et donc quelle est la part de notre richesse qu'on souhaite allouer. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment de chiffre magique, c'est vraiment il faut, selon moi, qu'on ait un débat sur quels sont nos besoins et puis donc, seulement après, eh bien, quelle est la part qu'on souhaite mettre dedans.
Est-ce que vous avez une petite idée du modèle économique que devrait adopter la France ?
Alors, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, notamment parce qu'en fait, la question de modèle, on met beaucoup de choses derrière ce mot de modèle. Donc, est-ce que votre question, c'est quelle est la part de l'État, quelle est la part du marché, qui en fait sont des vraies questions qui se posent là pour la transition. Est-ce qu'on peut décarboner notre économie seulement par le marché, en fait, ce que dit le rapport de mai, c'est que non. En fait, il faut que l'État vienne soit aider le marché, soit faire des investissements qui peut-être ne seront pas rentables.
Je ne suis pas sûr, mais je crois que vous avez été missionné pour informer le Sénat sur la sécurité sociale et écologique. Comment les sénateurs réagissent ? C'est un tabou où il y a une prise de conscience collective. Est-ce qu'ils doivent aller plus vite, d'ailleurs ?
Alors, je ne sais pas si c'est plus vite ou en tout cas un peu plus fort. Enfin, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas assez de débats sur ces questions. Et que ces débats vont prendre du temps, parce qu'en fait, ce sont des questions très lourdes. Enfin, c'est notre système, ça fait quand même 75 ans et puis même plus qu'il bouge, qu'il change, qu'il s'adapte. Mais c'est très lent, parce qu'en fait, ce sont des questions très lourdes qui concernent beaucoup de personnes. Il faut mettre autour de la table l'ensemble des corps concernés, pardon. Donc en fait, c'est pas tant une question de vitesse que d'une question qu'il faut y aller.
Concernant les émissions de carbone du secteur de la santé, cela représente presque 10% de l'empreinte carbone de la France. Comment fait-on pour décarboner le système de santé français ?
Je n'ai pas travaillé sur ça, mais il y a notamment les travaux du Shift qui sont très bons dessus et en fait qui vous montrent que dans ce secteur de la santé, il y a déjà un gros poste sur les transports. Et donc, en fait, faire en sorte qu'il y ait déjà soit moins de transport, soit en fait du transport vert entre les maisons médicales, les domicile et puis les hôpitaux, eh bien, ça va déjà réduire de beaucoup l'empreinte carbone du secteur de la santé.
Donc cela fait un petit moment, mais la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi préconise un PIB à long terme plutôt qu'un PIB à court terme. Devons-nous également prévoir une protection sociale sur le long terme? Est-ce que d'ailleurs cette protection sociale va-t-elle devenir mi-payante, voire payante?
Alors, ce n'est pas une question facile. Pour moi, la protection sociale, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle répare plus qu'elle ne protège. Donc en fait, il y a un vrai enjeu pour elle de faire plus de prévention pour être plus soutenable dans un long terme. Donc ensuite, ce qui est assez intéressant, donc c'est un choix. Parce que quand on a fait notre liste de besoins, qu'on sait le coût que ça va coûter dans les années qui viennent, on a en fait trois choix. Soit on choisit de ne pas prendre en charge ses besoins et puis donc de laisser le champ comme on sait le payer. Quoi. Voilà. Soit on peut choisir de socialiser ses dépenses. Donc en fait, de se dire qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de solidarité collective et en fait de mutualisation des risques qui fait que donc le système va être non pas nationalisé mais en tout cas public et donc en fait que l'État va faire en sorte que ce système sera le moins cher possible, en tout cas pour les ménages qui en ont le plus besoin. Soit on choisit en fait de laisser le privé, de laisser le marché venir sur les risques qu'on ne peut pas payer. Et puis donc là, cela fera qu'on paiera justement pour certains besoins, mais vraiment qu'on a choisi de laisser au marché.
Les inégalités environnementales, elles se superposent. On en a parlé, finalement, ce sont les personnes avec le plus bas revenu qui vont être le plus touchées par les aléas climatiques et par une hausse de la couverture sociale. Que peut-on dire au niveau des inégalités si on ne fait pas cette transition? Que va-t-il se passer?
Là, on est au cœur de ce qu'on appelle l'équité environnementale. Donc en fait, c'est-à-dire de savoir est-ce que les plus modestes vont être les plus touchés si on ne fait rien, mais aussi vont être les plus... vont être ceux qui doivent être le plus accompagnés pour changer de modèle. Donc en fait, il y a un graphique qui est très bien, qui regarde l'empreinte carbone des 50% les plus pauvres et des 10% les plus riches. Donc l'empreinte, la capacité de changement, donc c'est-à-dire la capacité pour eux de changer de voiture, de faire rénover leur logement, et l'impact des dommages climatiques qui auront lieu maintenant, mais auront encore plus lieu si on ne fait rien. Et puis donc en fait, ce qui est fou, c'est que donc autant les 10% les plus riches ont la plus grande capacité de changement, mais l'impact des dommages les plus faibles. Et puis en fait, pour les 50% les plus pauvres, c'est l'inverse. Donc en fait, si on ne fait rien, ce sont les plus modestes qui en fait vont souffrir le plus du réchauffement climatique. Le GIEC le montre au niveau mondial. Il y a peu d'études encore en France, mais ce sont aussi les plus modestes qu'il faut le plus aider pour être dans cette transition. Sinon, c'est eux qui vont payer le prix le plus fort des efforts à faire, alors même que c'est à eux de faire le moins d'efforts possible. Voilà.
Alors justement, s'il faut aider ceux qui en ont le plus besoin, cela amène à réfléchir à une vision plus globale. Si la France lutte pour se mettre au vert, cela ne changera pas le problème de la transition écologique. En France, ce sont les plus bas salaires qui vont le plus la subir. Dans le monde, ce seront les pays émergents. Comment fait-on? Doit-on avoir une vision strictement française ou doit-elle être européenne, voire internationale? Que va-t-il se passer? Les salaires vont stagner, voire diminuer?
Oui, alors donc ça, en fait, c'est un problème qui est très bien traité par la France économique, qui en fait s'appelle le mécanisme du passager clandestin. Donc en fait, qui en fait vous dit, bah, moi, la France, comme en fait je pèse que pour X pourcent les émissions mondiales, mais en fait ça ne sert à rien. En fait, je me lance dans tant d'efforts si en fait les autres ne le font pas. Et donc, ce que nous dit la science économique, notamment des gens comme Horthaus ou Elinor Ostrom, c'est qu'il faut faire des clubs climat. Donc en fait, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un changement global, faut que les pays qui se ressemblent se mettent ensemble pour enclencher le même type de politique et puis donc pour en fait amener le plus de pays possible à joindre ce club et puis donc à faire vraiment ce changement global.
Merci Mathilde Viano de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes économiste et chef de projet à France Stratégie et également la cofondatrice de l'Institut Avant-Garde et que vous avez également écrit « La protection sociale a-t-elle besoin de la croissance ?» Très bonne journée à toutes et à tous. C'était le podcast de la Caisse des dépôts concernant le dossier de la protection sociale écologique. Bonne journée.